C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
On a appris dans les dernières heures le décès de Silvio Berlusconi. C'est une figure majeure de la politique italienne, décédé donc à l'âge de 86 ans à Milan. Ce sont les informations qui ont été communiquées ce matin. C'est un personnage donc qui a été d'abord un homme d'affaires très riche dans le domaine de l'immobilier, communication, station de télé, propriétaire du club de foot de Milan et surtout un politicien qui a été probablement celui qui a pu être premier ministre le plus longtemps en Italie à travers différents mandats. 3340 jours exactement comme premier ministre. Mais un personnage. Un personnage qui a été pris dans un paquet de controverses. Encore aujourd'hui, il siégeait et n'a jamais caché son amitié, son respect pour Vladimir Poutine, malgré l'invasion en Ukraine. Toute sa carrière politique a été marquée par des tractations avec des gens douteux parfois, avec des adversaires politiques. On a surtout louangé son sens de la stratégie. Et en parallèle, une vie personnelle complètement débridée. C'est-à-dire qu'on se souvient, je pense tous, du scandale à répétition concernant du proxénétisme, ce qu'ils appellent des parties fines, des soirées coquines, qu'il organisait avec des présentateurs télé, des gens d'affaires, des jeunes filles mineures également, qui étaient invitées à ces soirées pour lesquelles Berlusconi payait. Sa femme a d'ailleurs demandé le divorce quand tout ça a été rendu public et que ce réseau d'influence qu'il avait dans les différents milieux lui ont permis de survivre. Et sa femme avait envoyé une lettre dans un journal en disant « Si vous êtes parmi les amis de mon mari, aidez-le à se contrôler parce qu'il est complètement déchaîné. » Alors, voyez encore ce personnage qui a marqué ce qu'on appelle la droite, le côté populiste en Italie, et qui est donc décédé dans les dernières heures. Parlons des feux de forêt. D'abord, les nouvelles sont quand même assez bonnes ce matin. Les pompiers, pour reprendre l'expression de la SOPFEU, sont davantage en mode offensif que défensif. Il y a donc des incendies qui demeurent hors contrôle, mais si vous prenez la situation en or métal, qui est toujours menacée, ça semble assez, je dirais, structuré comme intervention. D'ailleurs, avec le nombre de pompiers locaux, les pompiers venant de l'extérieur, les Français, les Américains, il y a à peu près 1000 personnes de déployées sur le terrain. Donc, on arrive quand même à exercer un certain contrôle. Deuxièmement, la pluie s'en vient, ce qui est une bonne nouvelle. Et aussi, les citoyens de Chibougamau pourront réintégrer leur domicile ce matin. À compter de 8 heures, la route va rouvrir. On va parler avec la mairesse. Cependant, il y aura des conditions à respecter. Il y a des aménagements qui devront être complétés. Et c'est vraiment la volonté de permettre aux gens de rentrer chez eux et de pouvoir retrouver une vie un peu normale. Tout n'est pas réglé, évidemment, mais ça fait partie des très, très bonnes nouvelles concernant ces incendies de forêt. Ailleurs, vous regardez en Alberta, Colombie-Britannique, ça continue. Les chiffres pour l'ensemble du pays, c'est autour de 400 feux qui demeurent actifs. Et on le rappelle, et on ne le dira jamais assez, c'est le début de saison en termes de feux de forêt le plus spectaculaire depuis des années. Des feux de forêt dans l'ouest, dans le centre du Canada et également dans les provinces maritimes. Maintenant, un mot, puisqu'on est dans l'univers politique aussi, on a vu que ça a déboulé rapidement dans les dernières heures concernant le dossier de l'ingérence chinoise. D'abord, le rapporteur officiel David Johnston a finalement démissionné. Il était sous pression et il a dit « je quitte ». Aussitôt samedi, on a vu le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominique Leblanc, faire un point de presse pour dire que le gouvernement n'écartait plus maintenant la tenue d'une enquête publique sur l'ingérence chinoise. Très clairement, c'est un échec pour Justin Trudeau. La gestion de cette crise a été lamentable. De nommer quelqu'un qui est probablement quelqu'un de fort crédible, mais qui, en raison de sa proximité avec la Fondation Trudeau, avec M. Trudeau, se plaçait déjà dans une situation, disons, difficile. M. Trudeau qui dit, je veux pas d'enquête publique, mais si jamais mon rapporteur me le conseille, je le ferai, ce qui n'a pas été le cas, pour des raisons de secret. Et finalement, les partis d'opposition, toujours rappelez que M. Trudeau est minoritaire, tape sur le clou. Certaines attaques ont été qualifiées de vicieuses par Leblanc, les attaques notamment de Poilièvre. Conclusion ce matin, on se retrouve avec un bloc d'opposition qui va tenter de négocier avec le gouvernement la création d'une commission d'enquête, une vraie, avec un juge indépendant, des pouvoirs et un mandat pour donner un rapport assez rapidement, ou en tout cas avant la tenue éventuelle d'élections. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire quelles ont été les influences de la Chine au Canada, quelles sont les informations qu'on peut rendre publiques. Est-ce que le Canada, comme dit souvent notre ami Jean-François Lépine, n'a pas fait preuve d'une grande naïveté, l'ingérence dans les élections, l'ingérence également dans de la recherche, dans le domaine économique? Il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux qui doivent être passés à la loupe. Qui savait quoi, à quel moment? Qu'est-ce que le gouvernement Trudeau savait? Qu'est-ce que le bureau du premier ministre avait comme information? Et le rôle du service canadien de renseignement et de sécurité? Alors, c'est assez clair là qu'après avoir perdu du temps pendant des mois avec cette enquête qui n'en était pas vraiment une, finalement, on se dirige vers vraiment là une enquête sérieuse. Puis disons qu'il était à peu près temps de faire ça. Puis peut-être un mot, quand on parle d'enquête, la situation à Kanisetake qui demeure toujours extrêmement fragile. Et je rappelle l'enjeu entre des individus connectés avec des gens du crime organisé qui font la pluie et le beau temps, conseil de bande qui est divisé, et vous avez un site pollué qui a été opéré par les frères Gabriel. Ce matin, Radio-Canada rapporte les propos de l'ancien chef, James Gabriel, lui qui avait décidé de faire le ménage dans la police, de tenter de s'en prendre à cette pègre autochtone qui est aussi sous influence de d'autres familles du crime organisé. On avait mis le feu à sa maison, il s'était poussé. Et là, ce matin, il témoigne avec l'impression de revivre un peu la même situation qu'il y a quoi, 20 ans maintenant. Il dit, à l'époque, il y avait des coups de feu, il y avait de la criminalité, le monde était silencieux et c'était le gars le plus fort qui régnait sur le territoire et c'est encore ce qui se passe actuellement. Les criminels locaux ont pris le contrôle avec le pouvoir du crime organisé de l'extérieur. C'est un paradis pour eux autres. Territoire sur lequel il est difficile de travailler. Alors, Radio-Canada qui a donc recueilli les propos de James Gabriel. La Ville de Montréal, la Société de transport de Montréal, lance une campagne de sensibilisation, puis j'espère un peu de répression à travers tout ça, là, concernant le harcèlement de rue. Ces femmes, les gens de la diversité également, qui sont ciblés et qui, dans bien des cas, ne portent pas plainte. Puis dans d'autres cas, on s'aperçoit finalement que il y a des enjeux de santé mentale, mais il y a plus que ça. La presse nous dit ce matin que les femmes, les jeunes de 18 à 24, les personnes donc issues de la diversité et les minorités sexuelles sont surreprésentées dans les bilans de harcèlement de rue. Dans plus de 50% des cas de harcèlement, les victimes ne reçoivent aucune aide des témoins. Et ça, je pense que c'est important. Il ne s'agit pas de jouer au héros, là. Mais combien de cas ont été rapportés ici par Bénédicte, des opérations policières ou encore au terme de procès, et des gens qui se sont sentis comme seuls. Dans d'autres cas, il y a eu des gestes qu'il faut souligner, chauffeur d'autobus, chauffeur de taxi, un passant. Mais souvent, les gens ont peur, puis ils ont des craintes, puis jusqu'à un certain point, c'est normal. Quand tu vois quelqu'un qui se fait écœurer dans le métro par une personne qui a l'air complètement hors contrôle ou avec pas beaucoup de contact avec la réalité, le réflexe de se tenir à l'écart est, disons, normal. Alors, il va y avoir ces opérations. Puis ça arrive à un moment où on a vu le bilan du SPVM, c'est une année marquée par une hausse de la criminalité. Les vols et les crimes contre la personne qui augmentent. Et là, c'est la première partie de l'année. Mais on n'est pas fou, là. On est capable de mesurer les événements violents qui impliquent des armes à feu, l'augmentation de près de 20 % des cas de voies de fait, des cas d'agression sexuelle également. Et dans différents coins de la ville, et je dirais qui impliquent à la fois des individus qui ont des problèmes de santé mentale, puis d'autres fois carrément, des organisations criminelles plus ou moins organisées. Les vols qui sont en augmentation, les vols de voitures. On a parlé beaucoup. Montréal est une plaque tournante, là, le port de Montréal. C'est assez simple, disons, comme situation. Et ça arrive où le chef de police, Fadi Daguerre, qui sera notre invité ce matin, a décidé d'aller vivre une expérience d'immersion sur le terrain. Il reprend un peu le modèle de Longueuil, donc, qu'il a implanté. Et il l'impose à ses policiers recrues en disant, vous venez travailler à Montréal, voici ce qui caractérise Montréal, puis il faut s'imprégner de cette réalité, ce qui modifie probablement les approches. Alors, pendant 5 jours et 5 nuits, il est allé sur le terrain, il a passé la nuit dans un refuge, il est allé voir les groupes communautaires, les immigrants, bref, c'est une tournée complète. Il va venir nous expliquer ça ce matin, et je le sais, c'est à la fois simple, puis en même temps, ça suscite beaucoup de commentaires. Et toute la fin de semaine, il y a des policiers qui m'écrivent même, parce que tout le monde le sait, là, qu'il y avait cette opération. Puis ce matin, c'est un article dans la presse de Katia Gagnon qui raconte donc qu'il l'a suivi. Il y a des policiers qui disent que c'est too much, qu'on n'a pas besoin de ça, puis que oui, c'est bien d'être près des gens, puis d'aller voir dans quel quartier on va travailler, puis qui sont les groupes en cause, puis pas juste la répression. Mais c'est toujours la recherche de l'équilibre. Puis là, je vous parle, là, c'est le son de cloche des policiers de la base, là, qui écoutent ça, là, qui voient ça, puis qui est OK, là, nous, on fait face à de la violence de plus en plus. Puis il y a ce côté travailleur social qui est reconnu par tous, mais est-ce qu'on met trop l'emphase là-dessus? Une belle question de débat, puis on va lui en parler ce matin. Il y a également cette série de reportages de Tristan Péloquin sur l'accès à la pornographie. Évidemment, on parle d'une pornographie explicite qui coûte rien dans bien des cas et qui est accessible à des mineurs. J'avoue que j'ai sursauté quand on s'est, quand on a donné des exemples d'enfants là, de 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans qui pouvaient facilement avoir accès à de la pornographie graphique. Là. Et la question qui sous-tend tout ça, c'est de quelle façon on intervient. Est-ce qu'on peut se fier sur les fournisseurs de matériel pour s'autodiscipliner? Moi, je n'y crois pas. Il y a une opération un peu de façade, de relations publiques qui est faite. Dans d'autres pays, on crée, ou dans d'autres États américains, on crée, et le projet est à l'étude ailleurs, une espèce de passeport virtuel où on garantit que tu as 18 ans. Et donc, il y a l'obligation de l'utiliser, et les fournisseurs, ceux qui hébergent toute cette pornographie, ben doivent s'assurer que la personne a 18 ans en fournissant cette pièce d'identification. Alors, je pense qu'il faut le faire, mais je pense aussi que c'est un peu illusoire de croire qu'on va régler l'accès à cette pornographie, je dirais, avec une espèce de carte d'identité, là. Puis quand on parle des mineurs, il y a une responsabilité des parents. Puis là, je dis pas d'espionner les enfants, mais à 10 ans, tu as le droit de te mêler de la vie de tes enfants, j'espère encore aujourd'hui, là. Puis à 12 ans aussi. Puis quand arrive l'adolescence, je comprends qu'il faut d'abord établir un lien de confiance. Mais quand vous voyez les effets de la dépendance, pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes face à la pornographie. Puis l'autre chose, moi, qui m'avait bien étonné, quand on a fait la série « Les collectionneurs d'enfants », des gens qui consommaient de la pornographie juvénile là, et qui découvraient cette pornographie parce qu'ils étaient d'abord et avant tout des consommateurs intenses de pornographie. Et soudainement, se glissaient de la porn avec des enfants. Puis on se partage un fichier, deux fichiers, trois fichiers, puis on trouve ça bien intéressant. Es-tu attiré par les enfants? Non, 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 mais ça se retrouve pareil dans mon ordinateur. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup, je dirais, de zones grises. Puis quand on voit, par exemple, des sites comme Pornhub, puis on intègre même le jeu avec la pornographie dans certains cas de casinos virtuels. Tristan Péloquin va être avec nous tantôt. Il y a aussi des CPE qui dénoncent deux choses, le manque de personnel et la concurrence des agences de placement. Et de plus en plus, selon ce reportage, les CPE doivent faire affaire avec des agences parce que ce sera une rupture de service. On ne sera pas capable de fournir. Puis dans certains cas, je suis un peu étonné, mais ça représente 20 % de la main-d'œuvre dans un CPE fourni par des agences. Il semble que les travailleuses des agences font peut-être un peu plus de l'heure, mais n'ont pas nécessairement les avantages sociaux. Et ça veut dire aussi des coûts beaucoup plus élevés pour les CPE. Alors, ça a l'air moins fou que dans le domaine des hôpitaux là, puis des infirmières, mais c'est devenu une réalité aussi difficilement contournable. Je vais vous parler du rapport de la Société québécoise du cannabis. Le patron sera avec nous tantôt. Mais le message, c'est de dire après des années de croissance, on stabilise la barque et on essaie de convaincre le consommateur de cannabis d'acheter tout son pot à la société d'État. Parce que visiblement, malgré les efforts de marketing, la livraison en dedans de 90 minutes, le prix compétitif, il y a encore beaucoup de gens qui décident d'acheter sur le marché noir. Et on prévoit pas que ça va changer énormément. Fait qu'il y a peut-être des gens à l'écoute ce matin qui peuvent nous dire pourquoi vous continuez d'acheter. Je sais que l'enjeu de la livraison, de la proximité des succursales, en parlant des succursales, cette société-là est traversée par des conflits de travail. Il y en a un qui dure depuis quoi, un an maintenant et plus, qui touche, je pense, une vingtaine de succursales. Fait que c'est sûr qu'il y a un problème assez évident de relations de travail. Et puis, dans les autres nouvelles, rapidement, on va y revenir ce matin. Ça concerne le président Trump qui doit comparaître demain, donc, pour avoir gardé ses documents secrets. Entrave, c'est une série d'accusations fort documentées. Mais il fallait entendre en fin de semaine le discours de ses partisans. C'est un appel à une forme de guerre civile. C'est un appel à la vengeance, à la résistance. Et ça laisse entrevoir pour les prochaines semaines, prochains mois, un climat de haute tension. Quand vous avez une alliée de Trump qui dit que tous ses partisans, ou presque, ont une carte de membre de la National Rifle Association, ça, puis le discours qui a mené à l'attaque du Capitole, ça commence à se ressembler. Charles-Philippe David va venir nous expliquer ça tantôt.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand.
Le chef de police de Montréal, Fadi Daguerre, est allé sur le terrain. 5 jours, 5 nuits, on appelle une immersion. Tout ça pour expliquer, montrer d'ailleurs ce que ces nouveaux policiers vont vivre pour comprendre les enjeux de Montréal. Il est avec nous ce matin. Fadi Daguerre, bonjour.
Bon, madame Charcot.
5 jours, 5 nuits, j'ai vu le compte-rendu de ma collègue Katia Gagnon. Là, vous êtes promené partout, refuge des immigrants, des gens qui sont en difficulté. Qu'est-ce que vous retenez, le premier constat là, de cette opération?
Mais le premier mot qui me revient, c'est respect. Respect des intervenants dans les milieux communautaires, le milieu de l'itinérance, le milieu des femmes violentées, l'autisme, tous ces milieux-là que j'ai vus. Et respect des... Très franc, je ne veux pas que ce soit cliché, mais je sais que mes policiers travaillent fort sur le terrain, mais là, je les ai vus intervenir dans les événements, puis j'étais vraiment en undercover, en civil. Quelle patience, quel professionnalisme qu'ils ont. Puis même des partenaires nous ont dit, Monsieur Daguerre, vous avez des Formule 1 sur le terrain. C'est que respect. Et l'autre, c'est... Il y a du monde vraiment magané.
Mais j'allais dire, qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez découvert que vous ne saviez pas déjà?
Je vous donne un exemple, parce que quelqu'un m'a dit, mais Fadi, est-ce que c'est vraiment nécessaire que tu dors là? Puis au début, j'avais un doute. Mais quand j'ai commencé à essayer de dormir, j'ai pas dormi. J'ai dormi un œil ouvert, un œil fermé, à cause des bruits, à cause des certains mots, certains cris, certaines choses. Puis la chaleur, 28 degrés, 27 degrés, le confort, j'en avais pas. Puis ce que j'ai découvert, c'est que M. Arcand, après 2 nuits, c'était lundi, mardi, mercredi. Mercredi vers midi, 1h, là je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Je retourne dans mon lit douillet. Puis des proches m'ont dit, Fat, ça sera pas ton expérience, tu vas regretter. Puis je suis retourné. ce que j'ai appris, c'est que après 3-4 jours de mauvais sommeil, je suis très irritable. Je pourrais être facilement quelqu'un qui se remet en question, qui sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe dans la communauté. Je voyais un peu nuageux partout, sombre partout. Et c'est là je me suis dit, un itinérant, quelqu'un qui vit dans la rue constamment, dort pas, dort à un œil fermé, un œil ouvert, fatigué, brûlé, même s'il consomme ou il consomme pas, ou même s'il est sur le fil à toxicomanie ou pas, comment ce gars-là fait pour fonctionner? Puis là, ça m'a fait réaliser encore plus, quand je le vois un peu désorganisé dans la rue, moi ça fait juste 3-4 nuits, lui ça fait une vie qu'il a. Et c'est là que je me suis dit, Fad, il va falloir qu'on trouve d'autres solutions avec les partenaires, le milieu de la santé, parce que du monde magané, du monde qui sont pris avec à eux-mêmes, mais ils n'ont pas vraiment, ils essayent les partenaires d'avoir des plus de ressources, mais ils manquent des logements. Il manque tellement de logements pour le milieu d'itinérance, parce que ces gens-là veulent avoir un logement, ils veulent pas être en urgence. Et au Québec, puis je fais pas de la politique parce que le gouvernement québécois a investi énormément. Je l'ai vu dans les milieux et ça continue à investir dans le milieu d'itinérance. Mais quand même, en général, on traite l'urgence au lieu de traiter le continuum, au lieu de traiter du moyen long terme. On traite souvent l'urgence parce qu'on est tous pris avec l'urgence. On a tous une vision à court terme. On veut régler les choses rapidement, mais ça prend vraiment des investissements à long terme.
OK. J'ai eu beaucoup de commentaires sur ce que vous avez fait, de vos policiers.
Okay.
Deux commentaires qui reviennent, en gros. Le premier, puis vous l'avez un peu abordé. Est-ce que c'était nécessaire d'aller jusque-là? Mmh. Est-ce que c'est nécessaire pour que le chef de police de Montréal là, aille dormir dans un refuge pour comprendre que la vie d'un itinérant n'est pas facile? Est-ce que c'est pas too much?
Mais c'est sûr que aller jusque-là, c'était pour moi pousser mes propres limites. Et en même temps, quand je vais demander à mes recrues à l'OTAN d'aller le vivre, pas, en passant, je veux juste être clair, les recrues ne dormiront pas dans les refuges. Les recrues vont faire 8 heures par jour et non pas 16 heures ou 24 heures comme moi j'ai fait. Moi, je l'ai fait en condensé, en intensité, parce que je voulais vraiment plus que saisir. Parce qu'après ça, on dit souvent en anglais, walk the talk, les babines suivent les bottines. Je sais pas si c'est à l'envers.
Ouais,
si je vais demander de quoi à mon monde, faut que le chef le vive. Puis je le vivais vraiment de manière candide, je voulais vraiment comprendre. Et moi-même, je me suis posé la question pour la nuit, mais oui, la nuit était nécessaire. Oui, parce que après 3 nuits, j'étais brûlé. Puis si moi je suis brûlé, qui est en santé, qui a une vie normale, qui tout va bien, ben il y a bien du monde qui seront brûlés dans la rue. Donc mon policier qui comprenne qu'est-ce que ces gens-là vivent, pour mieux intervenir avec les partenaires, mieux saisir les codes de la rue, c'était absolument nécessaire. Maintenant, je peux vous dire, c'était nécessaire.
OK. La deuxième question, ou le deuxième commentaire, c'est, ça arrive au moment où on a un début d'année marqué par une hausse de la criminalité, des événements violents, des crimes contre la personne, des armes à feu, agressions sexuelles. Ça arrive au moment où il y a une inquiétude, par exemple, la STM qui lance une opération contre le harcèlement. Les patrouilleurs, les hommes et les femmes me disent, on va-tu avoir un message que, c'est correct, là, l'ouverture sur les gens puis les partenaires, mais on a besoin que le chef nous dise là qu'il faut commencer à brasser un peu en ville aussi. Là.
Eh ben oui, ouais. Mais je les comprends parce que quand ils voient le chef faire ça, puis en même temps, il y a des fusillades, des événements majeurs, je les comprends de se dire, mais pourquoi qu'on parle pas plus de violence armée? Je l'ai dit et je le répète, la prévention et la répression de manière équilibrée. Monsieur Arcan, cette semaine, je vais sortir sur le bilan des fusillades, la violence armée, puis regardez les chiffres. En 2022, effectivement, le bilan est vraiment quand même aggravant et puis est préoccupant par rapport à 2022, mais depuis 2023, depuis janvier à mai, regardez la baisse. On n'arrive pas à le percevoir encore, mais nous, on a les chiffres. Puis on va les sortir probablement le mercredi ou jeudi, je vais faire le bilan au niveau des violences armées. Il n'a jamais été appelé n'importe quelle source policière que vous avez. On n'a jamais fait autant de frappes, puis on fait de la répression énormément sur le terrain. Ça, c'est la vision nécessaire, répressive. On frappe tout, un peu partout. 4 meurtres ont été résolus la semaine dernière. Pendant 2 semaines, on a résolu 4 meurtres d'un coup. Donc, même le meurtre de la jeune femme italienne à la salle de coiffure, on l'a résolu en une semaine. Donc, l'aspect répressif roule. Mais l'aspect répressif, M. Arcan, c'est une vision à court terme. Elle est nécessaire, mais à court terme. Moi, il faut, comme chef de police, comme directeur des citoyens de Montréal, qu'on regarde le court terme pour vraiment faire en sorte que la criminalité et les violences armées cessent.
Mais la question qui vient, est-ce que vous allez mettre autant en valeur ce que vous venez de me décrire comme résultat que l'autre, aspect?
C'est fascinant parce qu'on dirait que à chaque fois je suis avec les policiers sur le terrain lors de frappes policières avec le SWAT, on a moins de couverture médiatique parce qu'on est habitué à l'aspect répressif. Là, un chef de police fait de l'immersion 24 heures sur 24. Les gens en parlent, tant mieux. Je suis content parce qu'au moins, on va peut-être démontrer aux partenaires qu'on est tous ensemble. C'est une solution commune, c'est pas une solution policière, la violence. Mais quand je fais des répressions, quand on fait plusieurs frappes, regardez, on se parle aujourd'hui. Mm-hmm. Je vais sortir mon bilan de la violence armée jeudi ou vendredi, on verra la couverture. Mais Dieu sait qu'on en fait. Puis moi, il faut que j'ai une vision à court terme de répression au quotidien. Encore une fois, je le répète, les enquêtes vous le diront, il n'y a aucune limite. Et même pas budgétaire, là. Toute opération, on y va. Par contre, il faut que je regarde à moyen et long terme l'enfant de 8 ans, l'enfant de 10 ans, l'enfant de 12 ans. Comment je prépare la prochaine génération avec les partenaires, les groupes communautaires, le milieu institutionnel, le milieu de la santé?
Le recrutement se passe comment? On connaît l'enjeu du départ à la retraite qui a fait le plus de policiers qui partent qu'il y en a qui arrivent.
Oui, il n'est pas facile. Et je vous mentirai pas que je fais un peu la tournée un peu partout et... Je pense qu'on va avoir des résultats plus intéressants en 2024. 2023, on avait prévu environ 310 recrutements. On essaie tout de faire avec les équipes pour qu'on arrive à ce 310 de recrutement. Je ne sais pas si on va y arriver. 2024, je pense qu'on aura des meilleures chances, mais il n'est pas facile. C'est difficile d'attirer les personnes. On va devoir encore développer d'autres initiatives prochainement.
Je vais vous parler d'un cas. Un mafieux se fait assassiner sur le territoire du SPVM. Bon, la semaine dernière. Puis là, moi, je regarde ça avec le recul. Là. Puis là, je me dis, voilà, ce gars-là est assassiné. La Sûreté du Québec l'avait arrêté, avait saisi son passeport. Puis là, la rumeur, autant dans le milieu criminel que dans le milieu policier, disait, c'est lui qui est à l'origine de la tentative de meurtre sur le fils Rizzuto. Quand on fait ça, là, est-ce qu'on signe pas l'arrêt de mort de la personne?
Mais là, je vais pas aller trop dans le détail de ce dossier que je connais très bien. La personne... Oui, ça peut donner un signal pour la personne. Par contre, la personne avait été avisée à plusieurs reprises. Cette même personne avait vécu des tentatives de meurtre à plusieurs reprises auparavant. Donc, en quelque part, entre guillemets, là, on l'avait avisé, il savait. Oui.
Mais ça veut dire quoi?
Mais ça veut dire que... Il y a un jargon en anglais dans le milieu de la mafia qui dit « You do the crime, you're gonna do the time ». Mais c'est ça. Vous faites le crime, vous allez faire le temps, vous allez vivre tout le temps emprunté.
Et l'effet de ce meurtre sur, appelons ça, le climat général du crime organisé à Montréal, qu'est-ce que vous en décodez?
Mais il y a celui-là, il y en a d'autres qui nous font croire qu'on va avoir des règlements de compte dans les prochaines semaines, les prochains mois encore. Et en même temps, nous réservons quelques surprises au milieu du crime organisé. Quand je vous dis le côté répressif que les patrouilleurs ne sentent pas encore, si vous savez comment les enquêteurs des crimes majeurs, de l'anti-gang, travaillent de manière incroyable sur les arrestations qui s'en viennent, on a des grosses arrestations qui s'en viennent dans le milieu criminalisé. J'ai pas peur de le dire. Ça va amener une déstabilisation du milieu du crime.
Mais on parlait du meurtre de cette jeune propriétaire de salon de coiffure. Une femme, disons, reliée par alliance à la mafia qui est abattue. J'ai jamais vu ça.
Moi,
erreur sur la personne, c'est quoi?
je ris, mais je ris pas. Non. Premièrement, une femme...
Vous riez que je pose la question,
oui,
c'est ça que j'ai compris.
C'est la question qu'une femme, en plus une mère de famille, ça franchement, j'ai rarement vu ça. Le code, bon, on n'a plus de code. C'est quoi votre question déjà?
Erreur sur la personne.
Écoutez, on a fait l'arrestation en une semaine. Regardons voir dans les prochains jours le lien, s'il y en avait avec le crime organisé.
Fadi Daguerre, merci beaucoup d'être venu ce matin.
Merci à vous.
Fadi Daguerre, le directeur du service de police de la Ville de Montréal.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
On commence par les feux de forêt. C'est sûr que jusqu'en septembre, la situation va demeurer préoccupante. Il y a quand même un certain nombre de bonnes nouvelles ce matin, c'est-à-dire que les pompiers et tous les intervenants sur le terrain sont peut-être plus dans un mode offensif. Les gens de Chibougamau vont pouvoir rentrer chez eux. On va faire le point avec Karine Pelletier, qui est de la SOPFEU. Madame Pelletier, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
D'abord, il y a combien de feux toujours en activité au Québec, là, et combien sont hors contrôle?
En ce moment, il y a 116 feux actifs et il y a 43 feux qui sont toujours hors contrôle.
OK. Vous pourriez qualifier la situation de quelle façon ce matin, pour que les gens comprennent bien là, où on en est?
Elle est quand même encourageante parce que si on regarde là, ce qui s'est passé dans le dernier week-end, il n'y a pas eu de progression significative là, d'aucun feu d'envergure. Puis le feu de Nord-Métal a vraiment été contenu depuis hier matin. Donc ça, c'est une très belle nouvelle. L'équipe du Nouveau-Brunswick qui avait pris en charge l'incendie là, va pouvoir travailler à l'éteindre complètement de ce côté-là.
OK. Où sont les endroits là, qui demeurent problématiques ce matin avec un potentiel d'expansion?
Chibougamau, quand même, 96 200 hectares. En fait, à la base, c'était trois incendies différents qui ont fusionné ensemble pour faire un très, très gros incendie. Il y a beaucoup de portions de l'incendie qui ont été sécurisées, comme du côté de Mistissini. C'est pour ça aussi que du côté de Chibougamau, la mairesse a permis la réintégration des évacués. Mais le travail se continue, c'est certain, là, particulièrement sur le sud, là, justement pour pas que ça se rende à Chibougamau puis dans la communauté de Ougé-Bougoumou.
OK. Et qu'est-ce que la météo montre pour les prochains jours, là, pour ce début de semaine?
Bien, pour lundi, les indices de danger vont remonter un peu. Ça va être un peu critique la journée aujourd'hui, mais à partir de demain, il y a de la pluie qui est attendue. Mardi, mercredi, jeudi, autant à Chibougamau que le Belle-sur-Quévillon, qui est un autre incendie d'envergure également. Donc ça va donner un bon coup de pouce là, à nos équipes.
OK. On sait que la semaine dernière, il y a des pompiers français qui sont arrivés. Est-ce qu'il y a d'autres effectifs qui doivent débarquer au Québec cette semaine pour aider?
Oui, il y a une centaine de pompiers des États-Unis qui va arriver en début de semaine. Puis il y a d'autres pompiers, une autre cohorte de l'Europe. Il reste à confirmer précisément la provenance des pays, mais une cohorte de l'Europe qui va également arriver d'ici la fin de la semaine. Donc okay. En tout, juste aujourd'hui, là, il y a à peu près 1200 ressources sur le terrain, puis ça va augmenter encore là, jusqu'à encore bon 300 personnes de plus.
OK. Là, j'aimerais vous entendre sur les fameux avions là, qui arrosent. Il y avait un enjeu, il y a un horaire à respecter, est-ce qu'on a assez de pilotes? C'est quoi la situation au début de la semaine?
Pour l'instant, ça va. En fait, c'est la quantité d'heures maximale que les pilotes doivent travailler, c'est 100 heures par cycle de 30 jours. Donc, jusqu'à maintenant, ça va, mais c'est vraiment au cours de la fin de la semaine. Là, c'est le service aérien gouvernemental qui est responsable un peu de la flotte aérienne qui doit trouver en urgence des nouveaux pilotes. Évidemment, ça se peut qu'on doive aller vers les États-Unis parce qu'au Canada, nos pilotes sont très, très utilisés partout dans les provinces. La situation, elle est critique un peu partout.
OK. Merci, Mme Pelletier. Bonne journée. Karine Pelletier qui est de la SOPFEU. Et c'est vrai que la situation en Alberta, entre autres, Colombie-Britannique, ça demeure extrêmement préoccupant. On va aller retrouver notre collègue Carl Marchand. À Nord-Métal, le feu qui menaçait la municipalité est, disons, circonscrit, c'est contenu. Le feu ne progresse plus. Carl, qui est à Lassar, les gens qui ont été évacués, regardent ce qui se passe, puis c'est un peu un réflexe normal, là. Ils ont très hâte de rentrer chez eux.
Ben oui, Paul, et on leur a dit hier soir qu'ils auront un préavis lorsque viendra le temps de rentrer à la maison, mais là, évidemment, le préavis n'est pas annoncé encore. Mauvaise nouvelle aujourd'hui, il fait soleil dans le secteur de Lassar et Nord-Métal, les vents également qui sont un peu plus forts qu'hier, et les autorités qui ont bien dit que le feu pourrait donc redevenir hors de contrôle si jamais ça prenait des proportions. Alors, on regarde ce qui se passe à Chibougamau, on a hâte de retourner à la maison, et entre-temps, on s'occupe, Paul, il y a des gens qui pêchent ici dans la ville, et il y a le cinéma de Lassar, un cinéma indépendant qui a offert une projection hier matin pour les familles d'évacuer. Alors, il y avait des familles qui se sont pointées encore en pyjama hier matin. Je vous propose d'écouter le propriétaire de ce cinéma, Yvan Tremblay, qui nous explique pourquoi il a fait cette activité.
Moi, je reste à Saint-Vital, puis on a eu peur d'être évacués, puis on se met un peu dans la situation de ceux-là qui le sont. C'est pas évident déjà depuis être chez eux, d'avoir l'impression d'être ailleurs, de pas avoir beaucoup de choses à faire, d'être en attente. Ben, on s'est dit qu'une petite activité comme ça, c'est une super de bonne idée, puis que ça allait aider du monde au moins à penser à autre chose pendant une couple d'heures.
Il y a également un restaurateur qui offre des repas gratuits ce soir, Paul, pour les évacués, mais également tous les gens qui ont combattu les flammes. Alors, il y a beaucoup de solidarité sur le terrain ici.
Et il faut noter que le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, va faire le point sur place aujourd'hui.
À 13h30, le ministre Bonnardel qui va faire le point sur la situation dans la région. Il y a également une vingtaine de militaires aussi qui vont arriver aujourd'hui dans le secteur de Nord-Métal pour combattre les flammes. Alors, on espère pouvoir annoncer des bonnes nouvelles aux évacués au courant des prochaines heures, prochains jours.
Très bien. Merci beaucoup. C'était Karl Marchand qui se trouve à Lassar, donc en Abitibi.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
Sauf erreur, là, c'est très bientôt que les gens officiellement de Chibougamau vont pouvoir rentrer chez eux. Les 7500 citoyens qui avaient dû quitter leur maison en catastrophe il y a presque une semaine maintenant. La mairesse de Chibougamau, Manon Cyr, est avec nous. Madame Cyr, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan, bonjour.
Bon, alors, est-ce que le retour est officiellement commencé?
Bien, regardez, à 8 heures, la barrière à la dorée doit être ouverte actuellement, parce qu'il est 8 heures, il y avait déjà des gens qui étaient en ligne, qui attendaient. Alors oui, effectivement, depuis 8 heures, bien, il est 8 heures, les gens doivent commencer à monter tranquillement. Il faut qu'ils sortent de patience et qu'ils raisonnent et courtois.
OK, ça c'est sûr. Dites-moi, comment vous avez pris la décision, là? Quels sont les facteurs qui ont fait en sorte que vous avez dit « OK, on peut y aller lundi matin ».
Ben, il y avait plusieurs facteurs en termes notamment de l'accessibilité à la 167, la sécurité, la capacité pour l'hôpital de réouvert, tu sais, de se donner les services de base essentiels, mais surtout le feu 334 qui nous préoccupait, fait du surplace déjà depuis un bout de temps. Les vents sont moins forts, les directions sont favorables à nous, et surtout la SOFEU est secondée par des gens de l'armée canadienne, des sapeurs-pompiers français. Donc tout le monde est au travail pour pouvoir attaquer le feu. Et ils font du surplace depuis quelques jours là, en direction de notre communauté. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que le feu officiellement a augmenté de volume. Mais en fonction de notre direction, tout est sur place. Et on prévoit qu'avec la surfeu, la température, si tout est beau, bon, on va finir par avoir de la pluie. Donc, c'est pas une situation facile parce qu'il va falloir apprendre à gérer avec les feux de forêt. Puis c'est tellement immense, puis il y en a tellement partout. Mais par contre, M. Arcand, je suis confiante et aujourd'hui, les gens peuvent prendre la route pour revenir à la maison.
OK. Parlez-moi de la qualité de l'air chez vous. Ça ressemble à quoi?
Pour l'instant, je vous dirais que c'est bien, mais c'est sûr qu'il y a de la fumée dans l'air, puis il va en avoir encore dans les prochains jours, là, tant qu'on n'a pas eu de la pluie ou qu'il n'y a pas eu de changement de direction des vents. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a des vents, il y a des feux au nord, mais il y a des feux à l'est et à l'ouest. Donc, dépendamment de la direction du vent, la qualité, la fumée vient, mais présentement, c'est tolérable.
On sait que ça peut changer très rapidement. Est-ce que il y a quand même un scénario dans votre tête où vous dites, si jamais ça se détériore, je vais être obligé de demander l'évacuation encore une fois?
Oui, monsieur. Ça, c'est clair. Ça fait partie de l'équation. Je vous dirais qu'on a vécu l'expérience mardi dernier. Je vous dirais, par exemple, j'ai pas envie de la revivre, cette expérience-là. Donc, on fait tout en mesure avec nos différents partenaires de pas avoir le besoin de le refaire. Mais je vous dis qu'on est déjà en train de se préparer que si jamais il faut le refaire, j'ai des gens actuellement ici à la municipalité qui travaillent là-dessus. Parce que la saison des feux n'est pas terminée. La sécheresse est encore là. On a encore des conditions de feu extrêmes dans nos forêts actuellement. Donc, effectivement, c'est une possibilité.
OK. L'autre chose, est-ce que en termes, par exemple, je voulais dire pour les services essentiels, pour la bouffe, pour les médicaments en pharmacie et tout ça, est-ce que vous avez pu faire le plein? Autrement dit, moi, je reviens chez nous, est-ce que je dois attendre? Est-ce que je dois acheter de la nourriture ailleurs? Comment ça marche?
Monsieur, pour l'instant, ce qu'on me dit, c'est qu'au niveau du service essentiel, tout est là. Maintenant, si à soir, vous voulez faire un bœuf bourguignon, je vous dirais peut-être changer de menu, hein? On va être plus simple. Les épiciers, on me dit, il y a la base qui est là sur place. Les commandes ont été faites depuis samedi ou hier. Les livraisons vont arriver, mais il faut comprendre, les livraisons vont arriver ce soir ou demain. Mais moi, il y a des épiciers qui nous disent, demain matin, on devrait être 100%. Puis le reste de la socio-économie va suivre son cours également dans les prochains jours, dans les prochaines journées. Puis les gens qui sont pas en santé ou les gens qui sont nos personnes âgées, bon, on les ramène pas tout de suite en ville. On prend le temps. On n'est pas à la course non plus de ce côté-là.
Madame Cyr, vous êtes la mairesse de Chibougamau. Racontez-moi sur le plan personnel comment vous avez vécu cette dernière semaine.
Ben, je vous dirais que c'est assez intense. C'est quelque chose comme maire qu'on ne veut jamais vivre dans notre vie. Mais je suis heureuse de l'équipe J'avais une équipe de feu, M. Arcand. J'avais des gens extraordinaires à mes côtés. Mes partenaires, la Sauve-Feu, vous savez, la SQ, tout le monde, on a travaillé d'arrache-pied. Et surtout, on va continuer à travailler et suivre l'évolution des dossiers, des feux, là, d'heure en heure, je vous dirais.
Madame Cyr, merci beaucoup. Bravo à vous et à toute votre équipe.
Merci, au plaisir.
OK, au revoir. Manon Cyr est la mairesse de Chibougamau.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
Et on a appris très tôt ce matin le décès de Silvio Berlusconi, mort à l'âge de 86 ans, des suites, dit-on, d'une leucémie. Évidemment, il a été président du Conseil, premier ministre. D'ailleurs, c'est l'homme politique qui a été le plus longtemps au pouvoir à travers différents mandats. Homme d'affaires, magnat des communications, propriétaire du club de foot de Milan, qui a été secoué par toutes sortes de scandales de nature politique, sexuelle. Bref, quelqu'un d'extrêmement controversé. Bernard Bédarida est avec nous. C'est un journaliste indépendant. Il est à Rome, en Italie. Monsieur Bédarida, bonjour.
Bonjour, Paul.
Alors, peut-être nous parler un peu ce matin d'abord de Berlusconi. Pour les gens, là, pour bien comprendre le personnage, qu'est-ce que vous pouvez nous dire?
Alors, je vais vous dire une chose. En fait, il avait déjà eu un gros malaise de santé il y a quelques mois. Il avait passé plusieurs semaines à l'hôpital Saint-Raphaël et donc on était un tout petit peu préparé. Il en était sorti, il s'était fait voir dans un commentaire enregistré à l'intérieur de l'hôpital qu'il avait fait installer comme si ça avait été son bureau lors d'un congrès de Forza Italia, le parti qu'il avait créé en 94. Finalement, c'était les Italiens disaient mais cet homme est un mutant parce que il a une leucémie, il lui en est arrivé de toutes les couleurs, on lui a jeté à la figure une statuette de Dôme de Milan. C'était un homme qui finalement on pensait qu'il n'allait plus mourir. Et puis, il y a quelques jours, il a été réhospitalisé, soi-disant pour des contrôles. Et là, on a compris que les choses étaient peut-être plus compliquées. Ce matin, effectivement, la nouvelle est tombée vers 9h30, 10h. Et les Italiens autour de nous ont effectivement réagi de manière comme s'ils avaient vu mourir, malgré toutes les controverses du personnage, les choses qui n'allaient pas, etc. Un grand-père auquel finalement il s'était attaché malgré les méfaits, malgré les affaires un tout petit peu troubles auxquelles il avait été mêlé. Un sentiment assez contrasté, comme vous l'avez dit, mais les Italiens s'étaient attachés un petit peu à lui.
Parlons justement de ce personnage, parce que je regardais son historique personnel, si on veut. Oui, beaucoup de succès en affaires, achète un club de Milan, le club de football, mais rapidement, il y a quand même des scandales de nature sexuelle, des associations douteuses, des cas également de fraude fiscale. Bref, il y a eu tous ces événements et malgré ça, il a pu quand même demeurer en politique.
Je vais vous dire, Paul, il avait su, interpréter un côté peut-être contestable de certains Italiens, c'est-à-dire les affaires, effectivement, tout ça, c'est vrai que ça n'avait pas plu, mais c'était un côté qu'il avait su finalement retourner à sa faveur. Les fameuses histoires sexuelles avec la jeune Ruby Rubacuore, qu'il avait fait définir la petite nièce de Moubarak, finalement c'était scandaleux, elle était mineure, c'était une prostituée, mais cela avait fait sourire finalement, parce qu'elle avait été présentée comme la nièce du président égyptien Moubarak. Donc je vous dis, les Italiens avaient fini par s'attacher à lui. Les scandales sexuels, c'était toujours présenté d'une manière assez légère, drôle. La fraude fiscale, la corruption, les liens avec la mafia, c'était toujours présenté comme de l'acharnement contre cet homme qui avait réussi, qui avait gouverné le pays pendant 20 ans, qui était propriétaire de 3 télévisions, d'un empire médiatique, de sociétés d'assurance, de banques, de maisons d'édition. Donc finalement, les Italiens étaient très partagé entre le voir comme le l'ange du mal ou finalement un personnage qui avait réussi, qui avait fondé un parti politique, qui avait su donner à l'Italie un moment de prospérité. Donc, comme je vous dis, les Italiens sont un peu partagés aujourd'hui.
Merci beaucoup d'avoir pris ce moment avec nous. Bernard Bédarida, qui est journaliste indépendant, et il nous parlait en direct de Rome.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
Maintenant, parlons de Donald Trump, parce qu'il doit se rendre comparaître demain pour faire face à ces nouvelles accusations. pour avoir gardé chez lui des documents classés secrets, accusation également d'obstruction. Et on le voit, il est toujours en campagne pour la présidence. Et ce qui était très frappant au cours du week-end, ce sont les propos tenus par des partisans, des gens qui le défendent, qui parlent d'une guerre, qui parlent d'une vengeance. Il y a même une des intervenantes qui a dit, vous savez, tous ceux et celles qui aiment Donald Trump sont membres de la National Rifle Association. Et ça crée une espèce de climat, disons, à 24 heures de sa comparution qui inquiète pas mal de gens. Charles-Philippe David est avec nous. Charles-Philippe, bonjour.
Bonjour, Paul.
Alors, on peut pas dire là qu'à la veille de cette comparution, le ton est bon, le climat est sous contrôle. On sent de l'agressivité.
Cette agressivité nous rappelle évidemment beaucoup, beaucoup celle qui a précédé l'émeute du 6 janvier 2021, Paul, au Capitole des États-Unis par les partisans de Donald Trump. On ne prédit pas que la même chose va se produire, mais qu'elle puisse se produire, c'est certainement possible, étant donné les appels de Trump, par Trump lui-même, pour, et je cite le mot à la fois en anglais et en français, « rétribution » contre le système judiciaire américain, contre le procureur Jack Smith et contre ce qui est surnommé une mascarade de justice qui se déroulera demain à Miami. Ce sont des mots, comme tu le dis, très forts et qui, finalement, incitent incitent à l'émeute. Et en plus, ce matin, le dernier sondage, en me levant, on apprend de CBS News et de YouGov, donne Donald Trump, imaginez-vous, en avance de presque 40 points sur Ron DeSantis, ce qui donnerait à peu près plus de 60% du vote républicain à Donald Trump. Si l'élection du nominé républicain avait lieu aujourd'hui, donc c'est vous dire à quel point on est dans une contradiction complète ici entre le système judiciaire américain qui a bel et bien prouvé que Donald Trump a caché des documents sciemment et menti, et de l'autre cet attrait qu'il continue d'exercer auprès de ses partisans.
Qu'est-ce qu'on a appris de plus dans les derniers jours là sur les accusations qui seront officiellement déposées contre lui demain?
Qu'il a menti, sciemment. Et c'est un peu, ça me fait penser, pour les plus vieux d'entre nous, à l'histoire de Richard Nixon. Ce n'était pas tant le Watergate qui avait plombé Richard Nixon, la casse dans le Parti démocrate pour trouver des documents sur la campagne électorale, que le fait, par la suite, pendant plus d'un an, d'avoir caché cette vérité. Ça me fait penser un petit peu à cela. L'intention était très claire par Donald Trump de vouloir conserver à tout prix ces documents, les cacher même à ses avocats pour qu'ils ne les remettent pas au FBI. Ces mensonges que l'on entend d'ailleurs au moins une fois sur un enregistrement audio dans lequel il précise clairement ne pas vouloir remettre ces documents me fait penser qu'il s'estime vraiment être au-dessus de la loi. Et tout ça, encore une fois, est contradictoire avec le candidat Donald Trump en 2016, qui, souvenez-vous, dans la foulée des dénonciations sur les courriels de Hillary Clinton, disait maintes reprises publiquement que sous son règne, le système de classification serait respecté et que plus jamais de documents ne seraient emportés, empruntés et volés par des officiels du gouvernement des États-Unis. Et nous voici donc, 7 ans plus tard, avec le même Donald Trump qui ne s'applique pas à lui-même la promesse électorale qu'il avait faite en 2016.
Mais est-ce qu'on sait pourquoi il tenait tant à avoir chez lui ces documents?
Je souscris à preuve du contraire à la thèse d'Yves Boisvert dans La Presse. Je pense que le personnage narcissique explique le pourquoi. Je crois moins que je le croyais auparavant qu'il trouvait ces documents intéressants pour des raisons financières ou pour des raisons de vouloir faire ou exercer du chantage à l'égard de certaines personnes. Je pense que c'est le désir de se montrer important, de montrer des documents à des gens proches de lui, Écoutez, je pense qu'on est beaucoup plus dans un cas ici de santé mentale que d'intérêt politique pour expliquer cet agissement ou ces agissements de Donald Trump, ce qui est inquiétant.
Dernier point qui est important, je le vois avec le New York Post ce matin, le fait que Trump soit donc accusé, est-ce que et qu'il joue la carte de la guerre du système judiciaire corrompu de l'administration Biden qui fait une chasse aux sorcières, est-ce que ça met de la pression sur le dossier du fils Biden, Hunter Biden, qui lui est accusé d'avoir fait des affaires avec l'Ukraine, d'avoir touché de l'argent, tout ça qui fait l'objet de rumeurs et d'allégations?
Donald Trump, comme bien des gens, ne comprend pas comment fonctionne le système judiciaire américain. C'est aussi simple que ça. Par exemple, Jack Smith a dû expliquer hier qu'il n'a reçu aucune instruction et il n'a parlé à personne du côté politique du gouvernement des États-Unis. En particulier, il n'a eu aucune conversation avec le ministre de la Justice, Merrick Garland, pour justement rendre béton toute son enquête et faire en sorte qu'elle ne puisse subir aucune influence politique. Alors, autrement dit, dans les apparences, bien sûr, Donald Trump va dire qu'il est maltraité alors qu'on traite mieux Joe Biden, on traite mieux son fils Hunter Biden. En passant, il pourrait ajouter Mike Pence qui a emporté avec lui deux ou trois de ses documents classifiés aussi, mais les a remis aussitôt. Mais il ne comprend pas comment le système judiciaire américain fonctionne. Et c'est là, demain, je pense, qu'est la plus grande conséquence de cette toxicité Donald Trump. C'est dans l'esprit de beaucoup d'Américains, et peut-être même ailleurs, de remettre en question la légitimité et l'intégrité du système judiciaire. Et ça, c'est très, très grave pour l'avenir de la démocratie américaine.
Charles-Philippe, merci beaucoup encore une fois, très éclairant. Charles-Philippe David, qui est professeur, vous le savez, à l'UQAM, mais aussi président de l'Observatoire sur les États-Unis à l'UQAM.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcand.
Très bien. La Société québécoise du cannabis présente aujourd'hui son rapport annuel 2023, donc état financier, par même temps, c'est-à-dire une certaine réflexion sur l'avenir de la société, sur le développement de son plan d'affaires. Jacques Farcy, le président et chef de la direction. Monsieur Farcy, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Quand on regarde votre rapport, ce que vous nous dites dans le fond, c'est que c'est une société à maturité, ou presque, et qu'il faut pas s'attendre à une expansion, là, à une augmentation importante des ventes. Ça ressemble à une société mature.
En fait, effectivement, on atteint notre premier palier de croissance après 4 ans et demi d'existence. Donc, il faut qu'on soit capable de dépasser ce cap-là. Et en fait, on veut le faire en s'occupant un petit peu plus des clients. Maintenant qu'on a un réseau de succursales, il faut qu'on s'occupe plus de nos clients.
Quand vous dites s'occuper plus de vos clients, c'est que vos clients achète donc de la société d'État, mais achète aussi ailleurs.
Exactement. Un client qui vient nous voir, il dépense pas forcément tous ses dollars de cannabis à la SQDC. Donc notre métier à nous, c'est d'être capable de bien faire valoir tous les produits qu'on vend, toute la gamme de prix, pour que les clients nous choisissent ou nous préfèrent en permanence.
Et alors, est-ce que vous êtes capable d'évaluer le pourcentage qui vous revient par rapport au pourcentage qui dépense ailleurs?
Alors en fait, le marché, la captation du marché, on a vendu 106 tonnes l'année dernière, à peu près le même volume que l'année d'avant. Donc on estime qu'on a capté une bonne moitié, 56%, 55% du marché. Donc on est à la croisée des chemins, il faut qu'on aille capter cette autre partie-là. Après, les dollars dépensés par chacun des clients, évidemment on ne suit pas la dépense de chacun des clients, donc ça c'est beaucoup plus difficile à estimer.
Mais en gros, vous dites quoi? 50% chez nous, 50% ailleurs?
Exactement.
Est-ce que vous savez pourquoi, malgré que vous êtes là, et qui déjà, ces gens-là dépensent chez vous, ils continuent de l'acheter ailleurs?
Alors en fait, les arguments qui font qu'on est choisi sont aussi ceux que les clients utilisent parfois pour nous dire qu'ils ne nous choisissent pas. Donc certains nous disent « je viens chez vous parce que vous avez des bons prix » et d'autres clients nous disent « je dépense pas tout chez vous parce que vous avez pas des bons prix ». Donc
Alors quelle est la réalité?
Alors la réalité, c'est que sans doute on n'explique pas suffisamment ce qu'on fait pour que les clients comprennent bien l'offre de la SQDC. C'est pour ça qu'on veut mettre beaucoup d'efforts dans les années qui viennent. Et cette année, on va faire plusieurs essais dans des succursales pour voir ce qui fonctionne. Et évidemment, ce qui va fonctionner, on va le garder. Puis ce qui va un petit peu moins bien fonctionner, on va le changer et on ira vers d'autres initiatives.
Bon, les stratégies pour attirer habituellement le client, c'est le prix et le service. Alors, ce que je comprends, c'est que vous dites, on est compétitif avec le marché noir et on offre du cannabis très abordable à des prix là qu'on va retrouver même ça va être inférieur à ce qu'on retrouve sur le marché.
Alors effectivement, on a une gamme de prix, on parle souvent du prix moyen 6,48 $, mais on parle pas de la gamme de prix sur le cannabis séché. Notre premier prix c'est 3,43 $ le gramme et puis on vend le gramme jusqu'à 18 $. Donc effectivement, on a une gamme de prix qui permet de répondre à des attentes différentes pour des clients différents. Donc ça, ce sont des choses qu'on veut faire savoir en succursale. Et puis également sur les
produits. Êtes-vous moins cher que ce qui se vend sur la rue?
Non, on n'est pas moins cher que ce qui se vend sur la rue, mais on a des prix comparables à ce qui se vend sur la rue. Notre métier à nous, c'est pas forcément d'être moins cher que la rue, hein, mais on veut être comparable. Donc on a des prix comparables. Puis pareil, on vend 700 produits. Évidemment, quand vous rentrez dans la succursale, vous pouvez être un peu intimidé par tous ces packagings. Donc on doit expliquer qu'on vend du hashish, qu'on vend des produits comestibles, qu'on vend des huiles, qu'on vend de la fleur séchée, des joints pré-roulés. Donc tout ça, c'est un travail d'explication qu'il faut qu'on fasse. Puis la raison pour laquelle on l'a pas fait jusqu'à présent, c'est parce qu'on était très focalisé à construire le réseau. Maintenant qu'il existe, vraiment, il faut qu'on passe à l'étape d'après.
Comment fonctionne le service 90 minutes de livraison?
Alors, il fonctionne très bien. Lorsqu'on s'était vu au moment de l'anniversaire de la légalisation, on était vraiment au tout début. Aujourd'hui, ce service couvre à peu près 20% de la population québécoise. Et il complète très bien un autre service de livraison, qui est la livraison le soir même, qui existe dans la très grande région de Montréal, notamment. Et ce service de livraison le soir même, il couvre la moitié des Québécois. Et puis, bien sûr, on a une livraison qu'on appelle, nous, standard Post-Canada, qui couvre tous les Québécois. Donc, la livraison, c'est important.
Écoute, là, puis livrer du cannabis comme si c'était une pizza, là, puis le fameux délai 30 minutes, 90 minutes, acheter maintenant, le soir même, ce sera chez vous. C'est spécial un peu.
Alors, c'est sûr qu'on veut être efficace sur la livraison pour une raison assez simple, c'est que c'est le moyen historique dans l'industrie du cannabis avant qu'elle soit légalisée. Mais on n'est pas tout à fait comme des livreurs de pizza. On a quand même quelques règles importantes, notamment la vérification de l'identité au moment de la livraison. On ne laisse jamais un paquet de cannabis devant la porte.
Bon, par contre, au chapitre des relations de travail, on peut pas dire que ça va très bien. Il y a un historique de conflit dans les succursales. Il y en a quoi, là, qui sont en grêve actuellement? 24 en
gros? Oui, exactement. Donc, on a 24 succursales, effectivement, qui sont en grève depuis un an. On va célébrer aussi dans quelques jours le fait qu'on ait signé avec notre autre partenaire syndical. Néanmoins, effectivement, on est encore dans un mouvement de grève. On est convoqué par le conciliateur cette semaine pour que le conciliateur soit capable de nous faire part de l'analyse qu'il fait de la situation. Et puis, on avisera à partir de ce moment-là.
Mais un conflit d'un an dans une société d'État, c'est plutôt rare. C'est pas une première, je me le demande. Mais pourquoi c'est si dur de conclure un accord?
Alors aujourd'hui, le point essentiel qui reste à discuter et sur lequel il faut qu'on se mette d'accord, c'est le salaire. Aujourd'hui, nous, on offre un salaire pour là où on a réglé, un salaire de 19,39 $ à l'entrée. Et puis, les employés qui travaillent avec nous depuis quelques années, qui ont un peu d'ancienneté, ils passent le 20 $ en moyenne. Donc pour nous, ce sont des salaires qui sont très compétitifs par rapport à ce qu'on compare du marché de détail. Et puis, vous l'avez dit, on a ouvert quelques succursales ces derniers mois. On n'a eu vraiment aucun problème pour recruter. Donc cette offre-là, on pense que c'est une offre qui nous permet de très bien fonctionner. Maintenant, là, il faut qu'on réussisse à mener la négociation.
Mais juste bien comprendre, vous avez réglé avec une partie, l'autre partie syndicale.
Oui.
Vous offrez la même augmentation de rémunération à celle qui refuse toujours?
En fait, dans la négociation aujourd'hui, pour les succursales qui sont en grève, on part à 17,12 $ le salaire initial. Le syndicat demande un salaire supérieur à 21 $, donc c'est sans doute entre ces deux chiffres-là que les choses vont se faire. Mais dans une négociation, faut effectivement...
Mais est-ce que tout le monde, peu importe son affiliation syndicale, va avoir en bout de ligne le même taux horaire?
Je peux pas présager des suites de la négociation puisqu'elle est en cours, mais ce que je peux vous dire, c'est que les trois quarts de nos succursales aujourd'hui où c'est réglé, donc celles qui sont non syndiquées et celles qui sont affiliées à notre autre partenaire syndical, celles-là fonctionnent.
Et ce serait bizarre de gagner tant de l'heure à une succursale X et plus cher dans la succursale Y?
Alors effectivement, mais après, il n'y a pas que le salaire, il y a aussi d'autres conditions de travail qui sont négociées. Ce qu'on appelle le normatif, celui-là peut être un peu différent d'un syndicat à un autre.
OK. La dernière fois que vous êtes venu, vous m'avez parlé des produits dérivés, si on veut. Votre chou-fleur séché, entre vous et moi, c'était pas très, très attirant. Est-ce que, malgré le fait que ça soit, disons, moche, ça se vend?
Oui, ça se vend. Et depuis, sur les produits comestibles, on a fait quelques avancées. On vend un jerky de bœuf qui est infusé au THC. Donc, effectivement, on trouve des alternatives pour respecter le cadre légal, mais ne pas avoir des produits qui soient séduisants ou attractifs pour les jeunes.
Faut que ça soit... C'est-à-dire repoussant, mais pas très...
Il faut que ce soit pour les adultes.
Oui, c'est ça. Monsieur Farcy, merci beaucoup d'être venu ce matin.
Merci.
Ah oui, j'ai entendu parler d'une rumeur. Votre prédécesseur est rendu à l'Auto-Québec. Là, on vous envoie ailleurs. Est-ce que c'est fondé ou pas?
Ah, écoutez, moi, je suis le président de la SQDC. Oui. Puis, comme je vous l'ai dit, on a beaucoup de travail à faire à la SQDC.
Ça, vous répondez pas à ma question, là. Est-ce qu'on vous envoie pareil ailleurs?
Écoutez.
Est-ce que vous allez relever des nouveaux défis ailleurs?
Écoutez, j'imagine que vous parlez de la SAQ.
Oui.
C'est la question du moment. Vous savez que la nomination du président ou de la présidente de la SAQ, c'est la prérogative du gouvernement. Donc,
oui.
Je pense que la question s'adresse beaucoup plus au gouvernement qu'à moi.
OK, mais à votre connaissance, êtes-vous sur les rangs?
Écoutez, une fois de plus, je vais laisser le gouvernement se prononcer sur le prochain président ou présidente de la SAQ. C'est pas à moi de me prononcer sur ce sujet-là.
Je fais une petite comparaison. L'autre jour, Fadi Daguerre était ici. Puis j'ai demandé s'il était pour devenir chef de la police de Montréal. Puis il m'avait répondu pas trop clairement, puis c'était pas sûr. Puis, vous suivez votre candidature? Non, hein? Finalement, il est devenu. Est-ce que vous êtes dans le même genre de scénario?
Écoutez, une fois de plus, j'ai pas de commentaires à faire sur ce sujet-là. Okay. Mais je suis certain qu'on a beaucoup de choses à faire à la SQDC.
Puis à la SAQ aussi.
Peut-être.
Monsieur Farcy, merci d'être venu ce matin.
Merci,
Jacques Farcy, président et chef de la direction de la Société québécoise du cannabis.
C'est 23.